vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde. Aujourd'hui, Bagassi Kouraï, Idrissa Sedoudia ici à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité ici aux États-Unis, les officiels lient publiquement maintenant la Corée du Nord au piratage massif de Sony Pictures. Le président Obama tient ce soir sa dernière conférence de presse de l'année.
Le monde Touareg est en deuil. Le chef traditionnel des Difogas, Intala Aga Taher, est mort hier dans la nuit à Kidal. Il avait 87 ans.
Situation toujours tendue au Gabon où les activités sont perturbées par la grève des employés du secteur pétrolier.
Rencontre inédite à Madagascar, les quatre anciens présidents et l'actuel chef de l'État se sont rencontrés.
Bisbee au sein du PDCI en Côte d'Ivoire.
Le président Bédié sait que tant que nous serons rassemblés ensemble pour prendre la décision, ensemble, collectivement, la décision ne passera pas. Donc il n'y aura jamais de conditions pour que le PDCI réagisse pour nous.
D'abord, le journal. Ici donc aux États-Unis, le président Barack Obama tient ce soir sa dernière conférence de presse de l'année. De quoi sera-t-il question, Idrissa?
Eh bien, on attend le président. Il devait commencer cette conférence de presse il y a à peu près 2 minutes. Alors, on s'attend à ce qu'il aborde les grandes questions de l'heure. Il y a eu cette reprise ou cette décision de reprendre les relations diplomatiques avec Cuba. Il y a cette affaire de piratage de Sony Pictures avec les Nord-Coréens. Il y a aussi la lutte contre les militants de l'État islamique. Alors on s'attend à ce que toutes ces questions soient évoquées, ainsi que justement le dernier rapport de la commission sur la CIA.
Et alors, bien sûr l'immigration et sa réforme qu'il avait annoncée il y a quelques semaines.
Oui, et puis naturellement ce qu'il peut attendre peut-être des relations avec le futur Congrès qui sera dominé par les Républicains. Donc, dès que nous aurons des détails de cette conférence de presse, nous y reviendrons plus en détail.
Voilà. Et donc, on revient sur le continent avec le monde Touareg qui est en deuil. Le chef traditionnel des Ifogas de Kidal, Intala Aga Ataher, est mort hier dans la nuit chez lui à Kidal. Il était âgé de 87 ans. Le point avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Figure influente et respectée des populations du Nord en général et des Touaregs en particulier, Intala Aga Taher, Amano Kal des Ifogas, est décédé ce jeudi dans la nuit à Kidal à 87 ans. Devenu chef des Ifogas depuis 1962 à la mort de son père, Intala Aga Taher était une personnalité qui faisait partie de la grande famille des Achérifs qu'on retrouve dans certains pays voisins du Mali. Lors des 3 dernières rébellions, il lance des appels au calme pour un Mali uni et divers. En 2012, Amano Kal des Ifogas opte pour le MNLA qui se bat pour la partition du pays, mais très vite, il soutient le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, représenté par un de ses fils, Al-Gabbas Agantala. L'ancien député malien de Kidal était aussi un chef religieux incontournable. Aujourd'hui, des Maliens regrettent sa disparition et c'est tout le peuple Touareg qui est en deuil. Gao Boubacar Touré pour VOA Afrique.
Situation toujours tendue au Gabon où les activités sont perturbées par la grève des employés du secteur pétrolier. C'est dans ce contexte que le Front uni de l'opposition pour l'alternance se propose de tenir un grand meeting demain à Libreville. Pour le porte-parole de la présidence du Gabon, Alain-Claude Biye-Binze, cette coalition veut appeler à l'insurrection populaire. Entre-temps, le calme est revenu à l'université Omar Bongo de Libreville, théâtre hier de heurts entre étudiants et forces de sécurité. Pour faire le point, Timothée de Langmaï a joint notre correspondant à Libreville, Jean-Rovi Dabani.
La situation à l'IOB, donc à l'université Omar Bongo, à Libreville, est revenue à la normale aujourd'hui. Donc après des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux étudiants, des étudiants qui réclamaient la libération de leurs collègues Firmin Kolo, qui est arrêté depuis juillet, accusé d'avoir incendié des bâtiments administratifs. Au cours des échauffourées, il y a plusieurs étudiants, selon plusieurs sources, qui ont été arrêtés sur l'ordre du procureur de Libreville.
Ces incidents surviennent dans un contexte de grogne sociale au Gabon. Qu'en est-il?
Il faut signaler en fait que la grogne sociale touche plusieurs secteurs. Donc il y a des secteurs clés tels que le pétrole qui est touché et très de désagréments qui créent des désagréments au sein de la population. Donc du coup, la vie est au ralenti à Libreville. Le grève se généralise partout, dans tous les secteurs. Le gouvernement essaie de provoquer les syndicats pour essayer de juguler la situation.
C'était notre correspondant au Gabon, Jean-Revy Dabani, joint à Libreville.
Malgré de vives protestations, le président kenyan Uhuru Kenyatta a promulgué ce vendredi une nouvelle loi controversée sur la sécurité, rapporte l'AFP. L'opposition a tenté hier de bloquer le vote de cette loi. La nouvelle loi porte notamment de 90 à 360 jours la durée de garde à vue des suspects d'actes terroristes. La nouvelle loi allonge également les peines de prison et facilite les écoutes téléphoniques. Les journalistes qui gênent l'enquête ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme, ce sont les termes de cette loi, sont passibles de 3 ans de prison, de même que ceux qui publient des images de victimes d'attaques terroristes sans l'accord de la police.
Les 4 anciens présidents malgaches et l'actuel chef de l'État se sont rencontrés ce vendredi pour la première fois. Le but, entamer le processus de réconciliation nationale attendu depuis longtemps dans ce pays malmené par de nombreuses crises politiques. Nicolas Pineau.
Oui, c'est une réunion à huis clos inédite qui s'est ouverte dans un hôtel près de l'aéroport de Tananarive. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar a donc réussi son pari, réunir les 4 anciens présidents Albert Zafy, Didier Ratsirak, Marc Ravalomanan et Ange Radzoel autour d'une même table. Sans oublier l'actuel chef de l'État malgache, Eri Rajaona Rimampianina. Pour l'occasion, Marc Ravalomanana a été autorisé à quitter sa résidence du nord du pays. L'ancien président arrivé en hélicoptère et escorté par des militaires. Depuis sa chute en 2009, la réconciliation est difficile dans la grande île, malgré la signature en 2011 d'une feuille de route de sortie de crise. Le grand point d'interrogation de ces discussions concerne évidemment le statut juridique de Ravalomanana, condamné 3 fois par contumace sous le régime d'Ange Radzoel, notamment aux travaux forcés à perpétuité. L'ancien dirigeant n'a jamais reconnu la valeur juridique de ses condamnations. Il se dit désormais prêt à comparaître devant une cour malgache pour répondre des accusations contre lui.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les officiels américains lient publiquement maintenant la Corée du Nord au piratage massif de Sony Pictures. Le FBI a annoncé aujourd'hui avoir assez d'informations pour conclure que le gouvernement de Pyongyang est responsable de cet acte. La police fédérale américaine a dit être profondément préoccupée. Sony a décidé d'annuler la sortie de l'interview qui tue, une comédie satirique sur un complot fictif d'assassinat du leader nord-coréen Kim Jong-un à l'origine de toute cette affaire. Plusieurs salles ayant décidé de ne pas le montrer suite à des menaces d'attaque terroriste par de soi-disant gardiens de la paix. Ce piratage massif a provoqué des fuites concernant des dizaines de milliers de documents, dont certains plutôt compromettants.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté sans problème une résolution demandant au Conseil de sécurité de soumettre le cas de la Corée du Nord à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Cette résolution non contraignante a été aussitôt dénoncée par le numéro 2 de la mission nord-coréenne à l'ONU, qui a accusé, je cite, les États-Unis et leurs partisans de salir l'image de son pays dont il cherche, selon lui, à détruire l'idéologie et le système en prétextant des droits de l'homme. On doute que le Conseil saisisse la CPI, étant donné que la Chine, principal allié de Pyongyang, y dispose du droit de veto.
En Turquie, la justice a ordonné l'arrestation d'un chef de station de télévision et de 3 fonctionnaires de police accusés de terrorisme. Elle a en revanche fait libérer 8 personnes, dont un éditeur de journal ayant des liens avec Fethullah Gulen, un religieux musulman réfugié aux États-Unis. Ankara accuse ce dernier de complot pour renverser le gouvernement turc. Jean-Roger Billon.
Le procureur d'Istanbul a demandé à la Cour d'émettre un mandat d'arrêt contre Fethullah Gulen, qui vit dans l'État américain de Pennsylvanie depuis 1999. Ce dignitaire religieux dirige le groupe musulman Hizmet et avait par le passé fortement soutenu le président Recep Tayyip Erdogan. Il est en conflit ouvert avec le chef de l'État turc depuis décembre dernier, lorsque l'entourage de M. Erdogan, premier ministre à l'époque, avait fait l'objet d'une enquête pour corruption. Le président turc a pris en grippe les partisans de Gulen qui auraient infiltré les institutions national, mais le religieux nie toute implication. Les États-Unis n'ont pas répondu aux demandes répétées de la Turquie de l'estrader. Pour leur part, le patron de la chaîne de télévision Samanyolu, Hidayet Karacha, et trois fonctionnaires de police ont été placés en état d'arrestation ce vendredi. Ils avaient été interpellés avec une vingtaine d'autres personnes dans des raids visant des individus qui auraient comploté contre M. Erdogan.
Les forces kurdes dans le nord de l'Irak ont poursuivi aujourd'hui leur grande offensive contre le groupe État islamique. Ces forces disent avoir repris une bonne partie du territoire occupé par les militants islamistes et brisé le siège du mont Sinjar, où étaient bloqués de nombreux membres de la minorité yazidi. Un couloir menant au mont a été ouvert par les Peshmerga, a déclaré le président du Conseil de sécurité de la région autonome du Kurdistan, Masrur Barzani. Les combattants kurdes affirment également avoir repris 8 villages dans leur offensive appuyée par une campagne de bombardement aérien américain.
Voilà, donc. Voilà, on passe maintenant au magazine économique ce soir avec Nicolas Pinot. Et bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Après avoir revu ses prévisions de croissance à la baisse, le Nigeria prend des mesures pour enrayer la spéculation contre la monnaie nationale.
Annonce de la Banque centrale alors que le Naira a chuté à cause de la baisse du prix du pétrole dont le pays est le premier producteur d'Afrique. Concrètement, les acheteurs de devises sur le marché interbancaire ou auprès d'un courtier devront les restituer à la Banque centrale s'ils ne les utilisent pas dans les 48 heures. Les particuliers et les banques qui ne se plieront pas à cette injonction seront soumis à des sanctions.
Et puis au Burkina Faso, la transition est surveillée de près par les bailleurs de fonds.
Des délégations de la France et du Fonds monétaire international ont été reçues cette semaine au palais de Kossiam par le président Michel Kafondo. Le FMI attend du budget 2015 qu'il soit crédible et réaliste pour que les partenaires techniques et financiers accélèrent leur engagement.
Le MCC déclare le Bénin éligible pour 250 millions de dollars pour moderniser son secteur énergétique.
Oui, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, un programme financé par le gouvernement américain pour appuyer un certain nombre de pays africains dans le domaine de la bonne gouvernance, de la justice ou encore de l'accès aux fonciers. Après l'échec du Bénin en 2013, le pays a donc fait des progrès, notamment en matière de lutte contre la corruption, d'où l'octroi de ces 250 millions de dollars pour moderniser le système énergétique.
Au Cameroun, mise en place de centres de formation professionnelle.
Le gouvernement camerounais et l'Agence française de développement ont signé une convention d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est dédiée à la mise en place de deux centres à Douala et Edea.
Voilà pour la Minute Écho de ce jeudi. Merci Nicolas. Voilà donc la page sport donc de ce vendredi. On commence par du football. La FIFA qui revient sur sa décision et publiera bien le rapport Garcia. Et donc le fameux rapport Garcia est une enquête rédigée par l'ancien procureur fédéral américain Michael G. Garcia sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Sepp Blatter, président de la FIFA, a néanmoins précisé que ce rapport serait publié sous certaines conditions. Le Real Madrid, probable vainqueur de la Coupe du Monde des clubs demain, jouera au Maroc, le champion d'Europe qui reste sur une impressionnante série de 21 victoires devrait se saisir d'une nouvelle couronne ce samedi à Marrakech lors de la finale face aux Argentins de San Lorenzo. Bien que lauréate de la prestigieuse Copa Libertadores, l'équipe de cœur du pape François ne peut guère compter sur un miracle dans la mesure où absolument tout penche en faveur du Real. Le nageur américain Michael Phelps, sportif le plus titré de l'histoire olympique, doit comparaître ce vendredi devant un tribunal de Baltimore pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse, suspendu pour 6 mois par la Fédération américaine de natation après son arrestation en septembre. Le nageur a indiqué être profondément désolé d'avoir commis un tel écart et a suivi un programme de désintoxication de 6 semaines. Et puis enfin, la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Le Golden State a laissé passer l'orage Kevin Durant pour venir à bout finalement d'Oklahoma City 114 à 109. La Nouvelle-Orléans s'est imposée à Houston qui restait pourtant sur 3 victoires de suite 99 à 90. Milwaukee s'est imposé à Sacramento 108 à 107 et Chicago-New York 103 à 97 pour New York.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, donc vous écoutez donc Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine.
Dans le nord du Mali, la communauté Touareg est en deuil. Intala Agataer, leur chef traditionnel, est décédé hier soir à Kidal à 87 ans. Amnokal était une figure influente et respectée dans la région qui a été le théâtre de nombreuses rébellions Touareg. Il était le chef des Ifogas depuis 1962 et une personnalité incontournable depuis un demi-siècle. Idriss Fall a joint à Bakran Ag Sidi Mohamed, un jeune Touareg de Kidal.
Intala Agataer est l'un des plus grands patriarches Touareg. C'est un chef spirituel, il est chef politique de notre communauté, la communauté Kamachek. C'était un père, il était un père de la nation Touareg. C'est vraiment un jour de deuil national aujourd'hui. Toute la communauté est sous le choc.
Quand on dit les Ifokas à l'intérieur de la communauté Touareg, ça représente quoi?
Intala Agataer n'est pas seulement le chef de la fraction des Ifokas, il est le chef de toutes les fractions des Dadar, de toutes les fractions de Katamacha. Et la communauté Touareg a beaucoup de fractions. Les fractions ont fait un consensus depuis très longtemps et ils ont nommé Intala comme chef spirituel. Il n'est pas seulement le chef des Ifokas, mais il est le chef de toute la communauté Touareg. Il laisse derrière lui 4 enfants, 3 hommes et une femme. Il est décédé il y a 2 semaines. Il avait même déjà fait le schéma de sa succession. Il a désigné en première partie son fils aîné, Mohamed Ag Intala.
Mohamed Ag Intala, c'est le grand frère d'Al-Gabaz Ag Intala.
Al-Gabaz, oui, c'est son fils aîné. Donc, il avait choisi 3 personnes qui vont représenter toute la communauté. À l'absence de Mohamed, il y a Zé de Kramzat.
Depuis un certain temps, il était immobilisé.
Oui. Depuis son accident de 2005, mais cela n'a pas empêché de mener des activités en appuyant d'autres chefs de fraction. Intala a beaucoup organisé des rencontres intercommunautaires pour contribuer un peu à la paix. Et malgré qu'il soit immobilisé, il a pu faire des appuis moraux de tous les gens qui mènent des activités allant vers la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans les régions du Nord.
Est-ce qu'il avait joué un rôle dans les multiples rébellions qui ont eu lieu dans le nord du Mali?
Il a joué un très très, très grand rôle dans les rébellions parce que c'est l'accord d'Alger, c'est-à-dire l'accord de Tamanrasset qui a abouti à la signature du pacte national. C'est grâce à son appui en 90.
Est-ce qu'il a joué un rôle dans les récentes rébellions parce que ses enfants, notamment Al-Gabaz, étaient militants de Ansar Dine?
Oui.
Son neveu, c'était le dirigeant du MNLA.
Juste avant le soulèvement de 2012. Le vieux Intala Agataer, avec l'État malien, malgré tous les services qu'il avait rendu, n'a pas vraiment pu améliorer la situation de Touareg. Donc, la rébellion de 2012, il avait son avis favorable parce que pour lui, la solution au problème Touareg, c'est d'avoir un État indépendant. La Zawad était une solution. Il n'a jamais été contre les MNLA et même les HCA tout récemment.
Et quelle est sa relation avec Iyad Agali?
Là, quand même, elle n'est pas visible parce qu'il était farouchement contre les terroristes qui étaient là. Il n'était pas proche, il était un peu contre les terroristes.
Bakran Ag Sidi Mohamed, un jeune Touareg de Kidal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, donc, au sortir de sa réunion d'hier, a annoncé qu'un congrès extraordinaire aura lieu du 21 au 28 février prochain pour décider si un candidat PDCI représentera ou non Le parti à la prochaine présidentielle, l'un des candidats déclarés à cette élection, Kwadwo Konan-Bertin, ne partage pas la stratégie du président de son parti, Henri Konan-Bédier. Kwadwo Konan-Bertin, que l'on surnomme KKB, a été joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
Le PDCI RDA n'a jamais décidé de ne pas avoir de candidat. Jusqu'à preuve du contraire, le dernier congrès que nous avons tenu a indiqué clairement que nous devons avoir un candidat. Hier, nous avons été convoqués à une réunion du bureau politique justement pour statuer sur la question de la candidature en programmant donc la convention. En lieu et place de cela, c'est un pugilat qui nous a été servi parce que tous ceux qui soutiennent Bédier et Spel de Daoukro, visiblement minoritaires, ne voulaient pas entendre d'autres sons de cloche. Voici comment hier, ça a été une bagarre généralisée et le président Bédier a décidé unilatéralement de convoquer un congrès extraordinaire. Or, un congrès extraordinaire, à ce que je sache, c'est l'occasion pour rectifier toutes les erreurs qui ont été commises. Ça veut donc dire que si nous allons au congrès en février, eh bien, toutes les questions seront remises à plat, y compris le poste de président du parti. Mais tout ça participe bien d'une stratégie dilatoire. Il s'agit de nous avoir à l'usure pour que demain nous ne soyons pas capables de faire face au vrai débat. Et le vrai débat, c'est la présidentielle 2015. Et sur ce point précis, j'ai été clair, je suis candidat avec ou sans le PDCI RDA.
Il s'agit d'utiliser le nom du PDCI pour aller à ces élections. Si on vous refuse ce nom, que faites-vous?
Aucun Ivoirien ne peut dire ignorer que j'appartiens au PDCI RDA et personne ne peut me l'enlever. De toute façon, le PDCI tel qu'il se présente aujourd'hui, où on fait la bagarre au bureau politique, où on a du mal à renouveler les structures de base, où on n'a pas de candidat, ce PDCI-là est bien une coquille vide et qui n'intéresse pas les Ivoiriens. Écoutez, les Ivoiriens ne sont pas dupes, ils savent où se trouvent leurs intérêts, ils savent qui peut les garantir et qui peut les défendre. Et le moment venu, dans les urnes, ils le diront clairement, je suis confiant en ce qui me concerne, parce que les Ivoiriens sont enthousiastes et réservent un certain enthousiasme à la candidature.
Irez-vous à ce congrès de février 2015 convoqué par le président Bédier?
En février déjà, nous serons presque au premier trimestre de l'année 2015. Encore faut-il qu'il ait lieu. Je ne suis pas certain qu'il ait lieu, comme l'a indiqué. Parce que l'objectif que nous allons à un congrès, c'est de tout faire pour qu'on n'ait pas de candidat. Le président Bédier sait que tant que nous serons rassemblés ensemble, pour prendre la décision ensemble, collectivement, sa décision ne passera pas. Donc, il ne créera jamais de conditions pour que le PDCI RDA se prononce. Et donc, c'est peine perdue, c'est du temps qu'on perd. Moi, je ne pense pas que je pourrais le suivre dans ce jeu-là.
Voilà, je ne pense pas que je pourrais le suivre dans ce jeu. La parole de KKB, candidat déclaré du PDCI en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En Tunisie, c'est les derniers jours de campagne pour le second tour de la présidentielle. Dimanche, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir entre le président sortant Moncef Marzouki et Béji Caïd Essebsi, donné favori. Sur le déroulement de la campagne, Idriss Fall a fait le point avec notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
La campagne électorale de ce deuxième tour s'est déroulée d'une manière normale. Il y a eu juste quelques tensions, si j'ose dire, mais c'est pas vraiment méchant. Les Tunisiens, les médias, la société civile, c'est en général bien comporté si l'on considère le fait que c'est la première fois en Tunisie que l'on assiste à un deuxième tour en matière de campagne électorale. Ce n'était pas vraiment tendu, malgré les enjeux, malgré le poste de la présidence de la République. Encore symbolique, la Constitution privilégie un régime parlementaire. Les Tunisiens se sont bien comportés.
Parfois, les échanges étaient un peu durs entre Saïd Essebsi et Moncef Marzouki.
C'est normal si l'on considère que durant ces trois dernières années, il y a eu de la tension, il y a eu des divergences, il y a eu même de la violence, il y a eu des assassinats politiques. Donc, on ne saurait s'attendre à une campagne électorale sans le moindre accrochage. Mais pour le dire franchement, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'incident sérieux. C'est juste des propos tendus, des propos divergents que l'on voit même en Europe ou aux États-Unis. Donc, ce n'est pas vraiment très inquiétant, loin de là. La Tunisie, je pense que pour une première, ce fut une réussite et de la l'avis de tous, on s'en est bien sorti.
Mais peu avant la tenue du scrutin, des salafistes ont revendiqué l'assassinat de deux militants de gauche.
C'est vrai, mais encore faut-il, est-ce que l'on considère que cela fait partie du paysage médiatique tunisien, ou c'est plutôt de la surenchère de terroristes qui n'ont pas réussi à influer sur le déroulement des élections en Tunisie, qui n'ont pas du tout pu faire ce qu'ils veulent, bousiller cette échéance électorale. Ils ont voulu bien faire parler d'eux sur le terrain, ils n'ont pas réussi. C'est la raison pour laquelle ils ont balancé une déclaration de loi pour dire que ce sont eux qui sont derrière l'assassinat de Blaïd Ibrahim. Mais bon, est-ce que cela veut dire que cela va ternir ou que cela va bousiller les élections? Loin de là, c'est une déclaration lointaine qui indique bel et bien que la Tunisie s'en est plutôt bien sortie.
Notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Voilà, ici aux États-Unis, les inégalités raciales ne datent pas d'hier, notamment dans le système judiciaire. Un exemple historique, alors que depuis des mois, les Américains manifestent pour réclamer des réformes. L'exécution en 1944 d'un jeune Africain-Américain de 14 ans qui a été jugé aujourd'hui inéquitable. Plus de 70 ans après l'exécution de cet adolescent noir pour le meurtre de deux fillettes, un juge de Caroline du Sud a donc décrété que le plus jeune condamné à mort des États-Unis n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Nicolas Pinot.
Scène peu commune, le jour de son exécution, le 16 juin 1944, George Stinney ne pesait que 43 kilos. Il était si petit que son bourreau avait dû lui glisser un annuaire téléphonique sous les fesses pour qu'il puisse tenir sur la chaise électrique. Plus de 70 ans après cette exécution peu banale, une juge de Caroline du Sud, Carmen Tavis Mullen, a donc annoncé cette semaine que la procédure judiciaire contre l'adolescent avait été entachée, je cite, « de violations fondamentales et constitutionnelles d'un procès régulier ». Je n'ai pas souvenir d'un cas où abonderait autant de preuves de violation des droits constitutionnels avec une telle injustice, écrit même le magistrat. 70 ans après, la sœur du condamné à mort, Amy Ruffner, a été soulagée d'apprendre la nouvelle, comme elle le confie à la chaîne ABC.
J'ai pleuré, j'ai hurlé. Son honneur avait déjà été lavé au paradis, mais je voulais aussi qu'il soit lavé ici-bas, sur terre. Je remercie Dieu pour la décision de la juge et tout le reste. Elle l'a fait.
George Stinney avait été arrêté après la découverte dans un fossé de Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thomas, 7 ans, battue à mort. Les deux fillettes avaient disparu après une balade à vélo dans la ville d'Alcolou, marquée par la ségrégation et où la plus grande entreprise était la scierie locale. Ray Chandler, avocat de la famille Stinney, toujours sur ABC.
That trial, on that day.
Ce procès, ce jour-là, cette année-là et à cet endroit, dans ce tribunal, si incompétent.
En effet, lors d'un procès qui n'a duré qu'une seule journée, la police a affirmé avoir obtenu des aveux de l'adolescent, bien qu'on n'ait jamais retrouvé aucune preuve écrite dans les archives judiciaires. Son avocat, un collecteur d'impôts blanc, alors en pleine campagne pour sa réélection, avait convoqué très peu de témoins, ne s'était livré qu'à des simulacres de contre-interrogatoire et n'avait pas cherché à repousser la date du procès. Il n'avait fallu que quelques minutes au jury exclusivement composé d'hommes blancs pour condamner l'adolescent à la peine de mort. Son avocat n'avait pas fait appel, ce qui aurait pu suspendre l'exécution. En épluchant les minutes du procès, la juge Mullen explique qu'elle n'a trouvé aucune allusion à la présentation au juré de l'arme du crime, sans doute une barre ou une tringle en fer. Quant aux aveux de Stinney, le juge estime que la police les lui avait arrachés de manière indûment suggestive, non conforme avec les codes de la procédure pénale. La nièce de Paley June Binnicker, l'une des deux fillettes tuées, s'est quant à elle montrée indignée par cette décision.
Eh bien, merci Nicolas Bagassi. Avant de poursuivre cette émission, je voudrais signaler que le président Obama, que vous entendez en ce moment, est en train de donner sa conférence de presse, sa dernière conférence de presse de l'année, sa conférence de presse de fin d'année, avant ses vacances à Hawaï. Nous y reviendrons bien entendu plus en détail dans notre édition de 19h30, n'est-ce pas Bagassi?
Voilà, donc c'est sur ces notes que s'achève donc cette édition. On se retrouve dans une demi-heure. À la mise en onde, il y avait Joselle Mauricin au micro Bagassi Kouraï, Idrissa Sédoudia. Passez une excellente soirée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.